Allez, on marche encore une petite heure.
Prêt tout le monde? On est prêt.
Allez, zou.
C'est l'histoire d'une petite fille asthmatique et allergique qui ne semblait pas tellement prédisposée au sport en pleine nature. À cette petite fille, l'escalade a donné des ailes pour se dépasser, dépasser les autres, elle est devenue championne d'escalade, puis des ailes pour dépasser la compétition et atteindre son point d'équilibre. Stéphanie Baudet a fait de sa passion pour l'escalade un moyen de parcourir le monde, d'entrer en harmonie avec la nature, d'aller à la rencontre des autres et d'elle-même. Stéphanie Baudet raconte son parcours et ses vagabondages verticaux sur des parois lointaines dans son dernier livre intitulé « À la verticale de soi » aux éditions Guérin. Et elle est l'invitée de la deuxième heure du temps d'un bivouac. Deuxième heure que nous conclurons par un petit détour par l'Iran pour de nouvelles découvertes culinaires en compagnie de nos explorateurs des cuisines du monde, Marine Mandrila et Louis Martin. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac.
Tu arrives à vivre uniquement en grimpant par rapport à tout ce que tu peux ressentir dans l'escalade et tout ce que ça peut te procurer comme sensation. Au niveau de ton engagement moral, de ce que tu ressens sur le plan physique. Pour moi, l'escalade, c'est pas un sport. J'y consacre tout mon temps. C'est un mode de vie. J'arrive à retrouver tous les besoins qu'on peut avoir si tu veux en tant qu'être humain. Tu vas faire une voie très dure. Tu auras le plaisir justement de l'expression corporelle, la défense physique, qui fait qu'en fait, ça va te créer de petits besoins. Tu vas apprécier en sortant d'une voie un verre d'eau, un sandwich. Et bon, ça c'est intéressant à l'époque à laquelle on vit d'avoir de petits besoins, je crois. Il y a une prise de conscience au niveau de les plaisirs simples en fait qui suffisent très bien pour pouvoir vivre.
Extrait de La vie au bout des doigts de Jean-Paul Janssen, sorti en 1982, qui met en scène Patrick Heldinger, un grand nom de l'escalade. Stéphanie Baudet, c'est par ce film que l'escalade est rentrée dans votre vie et dans celle de votre famille.
Oui, tout à fait. Je suis très émue de réentendre la voix de Patrick Heldinger, effectivement, qui était notre idole à tous, hein, de ma génération. Et puis qui prophétise déjà la façon dont l'escalade peut largement dépasser le sport, la compétition, mais être vraiment un art de vivre. Et il nous a tous beaucoup inspirés. On le regrette tous énormément. Et je crois que dans cet petit extrait, il nous donne à voir ce que ça représente, les bonheurs simples, savoir se satisfaire de peu et puis vivre vraiment pleinement sa vie de manière intense et dense.
Alors, votre père voit ce film au cinéma lors de sa sortie. 1982, il ressort absolument marqué et puis alors il va contaminer toute la famille.
Tout à fait. Et puis mes parents étaient aussi des gens quand même qui ont qui sont écologistes en fait, qui dans l'âme, qui sont vraiment passionnés de nature et qui œuvrent à leur petite façon à la protection de la nature dans leur environnement familier. Et je trouve que ce film en tout cas l'a motivé aussi par rapport, je pense, l'a inspiré par rapport à ça, à ce qu'il disait à l'intérieur. Ouais.
Et le titre, rien que le titre du film, La vie au bout des doigts, je trouve qu'il vous va comme un gant, sans mauvais jeu de mots. Vous ne semblez jamais aussi vivante que lorsque vous êtes accrochée à une paroi, grâce à vos mains, évidemment, qui sont très importantes quand on fait de l'escalade. C'est là que vous êtes le mieux en phase avec vous et avec votre existence.
C'est vrai que j'ai trouvé dans l'escalade, comme vous le disiez dans l'introduction, j'étais pas quelqu'un qui était spécialement destiné au sport de haut niveau, mais j'ai trouvé dans l'escalade quelque chose d'autre en fait. C'est quand même une pratique très méditative, très contemplative, et en même temps très sensuelle parce qu'on caresse une matière, on ressent le grain du rocher sous sa peau, on en parvient. Enfin, moi, je les aime les différents types de roches. Ouais. Je vais connaître la différence et puis tous les grimpeurs le savent entre un granit, un calcaire beaucoup plus doux, alors un grès de Fontainebleau qui a cette espèce de toucher très léger de papier de verre qui est assez très agréable pour les grimpeurs de sentir cette adhérence sous les doigts. Et c'est vrai que je me sens vivante aussi parce que je suis pleinement immergée dans la nature. Je crois que c'est aussi ça. C'est pas un sport où on est enfermé. C'est un sport, alors maintenant effectivement avec les salles d'escalade on peut le pratiquer en ville, mais je crois que l'ultime façon de le vivre, en tout cas, c'est à l'extérieur.
Alors, partagez justement avec nous ce que vous ressentez. Alors, vous avez déjà cité quelques natures de roches qui, sous les doigts, ne donnent pas les mêmes sensations. Alors, j'en ai pris un exemple, mais il y en a tant d'autres qu'on verra dans cette émission. Transportez-nous sur les tours de Trango, c'est au Pakistan. Découvrez-nous le lieu et dites-nous ce que vous y avez ressenti.
Alors, les tours de Trango, c'est un très vieux rêve, en fait. Donc, c'est au Pakistan, comme vous le disiez. disiez, dans le massif du Karakoram. Oui. Et déjà, il y a quasiment deux voyages, parce qu'il y a déjà le voyage d'approche, qui est un voyage en soi, et ensuite l'ascension, qui est ce voyage vertical qu'on vit ensuite. Mais au départ, c'est déjà cette route incroyable qui va d'Islamabad jusqu'à la Chine, oui, et qui parcourt 500 ou 600 kilomètres par des cols assez effroyables. C'est des pistes toutes défoncées avec des pans de montagne énormes qui fondent comme ça dans un fleuve bouillonnant. Enfin, c'est déjà très impressionnant. On a presque l'impression que c'est plus dangereux que d'aller grimper. Et puis on se rend compte aussi que les populations vivent des vies très précaires au bord de ces fleuves. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, la façon après dont on est arrivé dans ces villages et de se rendre compte que c'était des villages qui vivaient depuis très longtemps justement du tourisme himalayiste, en fait, donc de ces occidentaux qui parcourent les glaciers et qui vont à l'assaut des 8000. Et donc il y a des générations de porteurs, en fait, qui traversent le glacier du Bal Toro en aller-retour depuis 150 ans. Et voilà, donc en soi déjà c'était un voyage au sein d'une culture très différente, avec cet islam quand même très marqué, la position de la femme aussi, où moi je me sentais un petit peu parfois pas toujours en adéquation avec ma façon dont j'ai envie de vivre ce que c'est d'être une femme, quoi. C'est pas facile quand on est entouré d'hommes et qu'on se sent constamment un petit peu observé, espionné. Et en même temps, une grande fraternité aussi. Donc, donc ça, c'était le premier voyage, on va dire. Voilà, on est arrivé au camp de base et ensuite, on s'est mis à grimper. Et alors là, il faut imaginer, peut-être pour ceux qui connaissent, la tour des Drus. Donc l'aiguille des Drus qui serait plantée au sommet du Mont Blanc, pour avoir une idée de ce que ça représente. Donc le sommet culmine à 6240 mètres. C'est du granit, donc le même granit qu'on peut trouver par exemple dans les aiguilles de Chamonix. Et c'est vraiment magique, en fait, parce qu'on grimpe entouré par les géants himalayens, des sommets à plus de 8000. Ces glaciers, c'est ce glacier du Bal Toro qui serpente dans la vallée. Ensuite, on a taillé une petite vire de bivouac, je crois, à 6000 mètres au bout du deuxième jour.
Alors, tailler une petite vire, c'est une sorte de petite corniche, c'est ça? Une sorte de petit balcon sur la paroi, c'est ça?
Voilà, exactement. On est arrivé à un endroit où il y avait effectivement une vire de rocher, donc une plateforme de rocher, mais qui était totalement ensevelie par la neige, en fait. Ouais. Donc, on avait nos piolets, parce que c'est une escalade rocheuse, mais on a toujours crampons et piolets, parce que c'est quand même de l'alpinisme. Et donc, on a taillé cette vire avec nos piolets. Et puis on s'est installé là pour la nuit. Donc c'est assez beau parce que tu vois vraiment la nuit tomber sur le glacier, le ciel s'allumer, toutes les montagnes qui prennent une teinte pastel et mauve là au soir, c'est magnifique.
On y est, hein, vous décrivez ça très très bien. Alors on l'a dit au départ, l'escalade, c'était pas forcément gagné, même si on sent qu'aujourd'hui ça fait partie de votre vie, vous êtes dans votre élément quand vous êtes accroché à la paroi. Petite fille asthmatique, allergique, et paraît-il, vous faisiez tout, d'ailleurs vous le dites dans votre livre, donc c'est pas paraît-il, hein, c'est dans votre livre que vous le dites, vous faisiez tout pour être exempté des cours de sport, des cours de gym. Vous n'aimiez pas la gym à l'école?
Non, je n'aimais pas du tout, surtout la course, en fait, à l'école. Ah oui. Parce que la course, en général, le cross du collège, vous savez, ce fameux rassemblement de tous les élèves qui a lieu en mois de juin, moi ça me rendait totalement malade, il y avait le pollen de partout, je n'arrivais pas à respirer, donc imaginez courir dans cette atmosphère-là, ça ne me convenait pas du tout. Ouais. Mais mes parents avaient eu l'intelligence de m'amener depuis mon plus jeune âge, je sautais l'école peut-être une semaine ou deux parfois en juin, ouais, pour aller dans le massif du Kera, donc pas très loin dans les Hautes-Alpes, et qui est un massif d'altitude très beau, avec des alpages très sobres et très magnifiques, une petite rivière, et puis on s'installait là pour camper avec le fourgon, et plutôt que de rester dans la vallée où je n'arrivais pas à respirer, bon ben là j'étais bien en montagne. Et donc c'est quand même grâce à eux que j'ai pu marcher et puis découvrir ça aussi, cet univers, parce que c'est pas, malheureusement, il fallait être initié à l'époque.
Ouais. Alors il y a cet engouement familial, hein, on l'a compris, qui vous pousse vers les montagnes et puis vers l'escalade. Un peu plus tard, là aussi, c'est très présent dans votre livre, vous tombez amoureuse d'Arnaud Petit, qui est champion d'escalade, donc qui va renforcer aussi votre intérêt pour l'escalade. Il y a des événements plus tragique aussi, qui renforce votre besoin d'escalade. Vous l'évoquez dans votre livre de façon très touchante, la mort de votre sœur. Elle avait 15 ans, vous en aviez 20. Et à ce moment-là, l'escalade, ça a été un refuge pour vous, une façon de vous raccrocher à quelque chose, au sens propre comme au sens figuré.
Oui, exactement. Je crois que c'est vraiment ça, en fait, parce que quand on vit un événement douloureux, on en passe tous par là dans nos vies, une maladie, un deuil, mais on se rend compte qu'il y a des prises de conscience qui se font. Et quand on a 20 ans, moi, ma réaction, ça a été, mais il faut que je vive quasiment pour deux, il faut que je vive vraiment ce qui me tient à cœur. Et quand ma maman m'a dit, suis ton cœur, quand je lui ai dit que j'allais arrêter mes études de lettres, et j'ai trouvé ça beau, parce que de ne pas mettre de limites à ses enfants, même si soi-même on est dans la douleur, on est dans la tristesse, d'arriver à dire à ces deux autres enfants, mais continuez, faites aller vers ce qui vous tient vraiment à cœur, allez vers l'essentiel de vos vies.
Ouais. C'est ça, peut-être même parce qu'on en a perdu un de ses enfants, pour les deux autres, on se dit allez à l'essentiel, parce qu'effectivement, au bout du bout, il n'y a que ça qui restera. Donc faites ce que vous avez envie, vivez, vivez tant que vous le pouvez. Il y avait un peu ça hein, dans le message de votre mère.
Oui, ben, on se rend compte que la vie est à la fois fugace et que c'est cette fugacité, ce caractère éphémère de la vie qui nous fait, aussi qui nous fait prendre conscience de sa beauté. Mmh. Et quand je me dis, quand on se lève le matin, il faudrait arriver, bon, ça ne m'arrive pas tous les jours, mais arriver à saluer le soleil et à s'éprouver cette gratitude en fait, pour être en vie.
Alors vous allez devenir championne, remporter plusieurs titres, c'était il y a quelques années, en 1999, première coupe du monde, bloc. Alors il y en a d'autres, des titres, je ne les énumère pas tous parce que je crois qu'aujourd'hui, ça correspond à une vie un peu passée, vous êtes passée à autre chose, la compétition, c'est plus votre truc.
Oui, c'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps. En même temps, je dénigrerai pas cette époque de ma vie parce que ça m'a permis de me connaître aussi. Ouais. Justement, la confrontation à l'autre m'a appris beaucoup de choses, et notamment qu'en fait, la confrontation était davantage une confrontation envers soi-même, et qu'il fallait oublier, quand on est dans une situation de compétition, il faut oublier de la comparaison. Quand on se compare, c'est déjà presque perdu d'avance. On a intérêt à vraiment essayer d'être au meilleur de ses possibilités par rapport à ce qu'on est soi, mais pas forcément en se comparant à autrui. Et
Alors vous allez décider de partir à la conquête du monde pour gravir des parois vertigineuses, ce qui vous emmènera des États-Unis au Pakistan, de la Patagonie à la Malaisie et dans bien d'autres lieux encore. L'escalade comme prétexte pour parcourir le monde, faire corps avec la nature et rencontrer l'autre, c'est ce que vous allez nous raconter, Stéphanie Baudet, dans la suite de ce temps d'un bivouac sur France Inter.
Eh ben, c'est la première fois que j'ai un coup de flip à la descente là.
Baby, 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 baby. No, 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 don't you cry. Don't you cry.
Janis Joplin, c'était Summertime sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Converser avec la nature, c'est faire entrer en soi l'unité du monde plutôt que chercher à en identifier les fractures. C'est saluer toutes les manifestations du cosmos, du soleil levant à l'oiseau du matin.
Stéphanie Baudet est l'invitée du temps d'un bivouac, auteur de « À la verticale de soi » paru aux éditions Guérin-Paulsen. Vous avez reconnu Stéphanie Baudet, la voix qu'on vient d'entendre ?
Oui, la voix de Sylvain Tesson. Oui.
Exactement, qui signe la préface de votre ouvrage. Et il est sous le charme, Sylvain Tesson. Il est complètement emballé par vous. Je vais citer un petit passage de sa préface. « Quiconque a croisé un jour cette fille en montagne ou à l'une de ses conférences a été saisi par sa présence pure, ce sourire qui semble ineffaçable, cette aura inconsciente de son propre rayonnement. Enfin, une alpiniste dotée d'une vraie face. Enfin, un regard qui semble avoir vu quelque chose. Il s'enthousiasme aussi pour votre style, qu'il trouve très beau. Il dit, elle décrit des choses qu'on n'a pas su voir, qu'on a ressenti, mais qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas été capable de formuler avec des mots. Il est emballé, hein, Sylvain Tesson.
Je l'en remercie beaucoup parce que je suis une grande admiratrice aussi de ses talents d'écrivain qui sont... C'est incroyable.
Et on l'entend d'ailleurs dans ce petit extrait qu'on venait d'entendre sur ces 6 mois passés dans une cabane au lac Baïkal et où il dit le rapport qu'il essaye d'instaurer et qu'il ressent avec la nature. Là aussi, vous êtes en parfait accord l'un et l'autre sur cette espèce de lien que vous voulez créer avec la nature.
Oui, je crois qu'il y a une sorte de panthéisme un petit peu, je pense, dans sa vision du monde et peut-être dans la mienne également. L'idée que, voilà, que finalement, on est dans cet univers et que le paradis est ici, immédiatement, sous nos yeux, et quand on se contente, quand on essaie en tout cas d'ouvrir les yeux pour le voir. Quoi.
Il y a une vraie spiritualité qui se dégage de vos écrits, dans votre livre. On a l'impression que ça appartient un peu à la spiritualité, ce que vous vivez sur la paroi.
Ah oui, sans doute. Je pense effectivement que le fait de passer du temps dans ces endroits... assez particulier quand même, le fait de passer du temps sur ces montagnes très sauvages, très austères, où on a le sentiment vraiment de notre fragilité et du caractère fugace de la vie. Mais ça nous donne peut-être accès à certaines choses, à une vision du monde particulière. Mais j'admire aussi beaucoup les gens qui sont capables d'avoir une forme de spiritualité et d'éblouissement dans le quotidien.
Oui.
J'aime beaucoup ces poètes comme Christian Bobin, par exemple, qui sont capables de s'émerveiller au contact des choses les plus simples, d'une vie très routinière et d'être capables de voir la beauté dans une fleur minuscule sur le rebord d'un trottoir. Je trouve ça magnifique.
Qui n'ont pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour atteindre un peu le sommet de leur rêve.
Je crois qu'ils ont davantage acquis la sagesse que nous autres.
Oui, c'est vrai. Alors, vous, on l'a dit, d'abord championne d'escalade, et puis tout d'un coup, vous vous tournez vers le voyage. Vous vous dites finalement, l'escalade, c'est le moyen de voyager, c'est le prétexte de voyager. Et il y a ces premiers voyages que vous faites, ce que vous appelez votre période personnelle, les années folles. Vous commencez par un très beau voyage à Madagascar avec votre compagnon Arnaud Petit. C'était en 1998. Racontez-nous ces premières grimpes à Madagascar.
C'est vrai que tout en faisant des compétitions, on commençait déjà à vouloir voyager parce qu'on sentait tous les deux, Arnaud également, mais moi aussi, j'avais pas vraiment l'âme d'une sportive, mais plutôt d'une quelqu'un qui voulait vivre des aventures, qui était attiré par l'inconnu. Et donc la compétition, au bout d'un moment, ça vous enferme. Et puis le calendrier, la routine de ce calendrier ne nous convenait pas du tout. Et donc on avait envie de s'ouvrir. Et Madagascar, ça a été une belle rencontre avec un lieu, avec des personnes, avec des parois. Parce que c'est vrai qu'on était parti, il faut imaginer l'époque où il n'y avait pas Internet, pas de Google Earth pour savoir où on allait. Donc on avait un grimpeur allemand qu'on admirait beaucoup, qui s'appelait Kurt Albert, qui nous avait donné une petite photo. On voyait une paroi gigantesque de 800 mètres de granit, avec des formes très, très belles, assez douces en fait pour une paroi. C'est assez étonnant comme lieu. Et on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait autour. Et donc c'était merveilleux de partir comme ça, de trouver moyen d'aller au pied et puis de partir grimper. Puis bon, évidemment au sommet on a dû bivouaquer, alors ça a été aussi notre première aventure parce qu'on n'avait rien.
Oui, des gens devaient vous rejoindre, ils ne sont pas venus, ils ne sont jamais venus. Donc vous avez passé votre nuit au sommet de cette montagne avec vraiment rien là pour le coup.
Et oui, parce qu'en fait, des amis donc devaient faire le tour de la montagne pour essayer de trouver une voie d'accès normale, on va dire, pour arriver au sommet et puis éviter de gravir cette grande paroi qu'on avait gravi nous. Et effectivement, on est arrivé en haut, on a crié un petit peu, voir si les amis étaient là. Absolument personne, silence absolu, quelques petits points de lumière comme ça, très loin, disséminés à l'horizon, on devinait les villages avec très très peu de lumière. Et donc c'était difficile parce qu'il faisait très froid. On peut imaginer qu'à Madagascar il fait bon, mais en fait il faisait 6 degrés, c'était l'hiver, les nuits étaient longues. Et malgré tout, ça nous a donné envie. On s'est dit, mais c'est génial en fait de se retrouver comme ça, presque comment dire à nu, c'est-à-dire on est vraiment en train d'étreindre la réalité, quoi. On est dans le concret, on est dans la vie, quoi. Il faut qu'on réveille un petit peu ces sensations animales. On se frotte dans la terre pour essayer de se faire un petit lit. On se recouvre de cordes. C'était assez c'était assez mémorable.
Ouais, vous y avez pris goût, hein, même si ce voyage à Madagascar c'était aussi un peu éprouvant pour vous. Vous avez été marqué par un violent épisode de paludisme, je crois. Vous avez eu affaire à une chamane pour vous guérir, parce qu'on s'est dit vous êtes allé sur un rocher sur lequel vous n'auriez pas dû aller. C'est un peu les esprits qui se vengent sur vous.
Oui, c'est ça, parce qu'il y avait effectivement des tombeaux sur chaque bloc qui était disséminé au pied de la paroi, et dedans temps en temps grimper certains de ces blocs. Alors les locaux nous avaient vus, nous avaient indiqué les blocs sur lesquels on pouvait grimper qui n'avaient pas de tombeau. Et puis donc le chef du village avait décidé que j'avais été malade parce qu'effectivement j'avais peut-être gravi un bloc sur lequel des ancêtres, sous lesquels les ancêtres étaient inhumés. Et donc les ancêtres se vengeaient. Et donc effectivement c'était assez folklorique parce que je me suis retrouvée sous une espèce de grosse couverture à faire une inhalation géante avec des feuilles de quinine qui avaient été ramassées par notre chauffeur sur l'arbre. C'était vraiment une immersion. J'avais 22 ans, j'avais jamais voyagé et je me retrouvais là, les pieds vraiment dans le concret. Quoi.
Alors, vous n'êtes pas seulement une passionnée d'escalade, de voyage, vous êtes aussi une passionnée de littérature. Et même, ça remonte, j'ai l'impression, à plus loin encore, hein, la littérature pour vous, parce que quand vous étiez encore enfant, un peu fragile, que vous n'aviez pas encore trouvé votre voix et votre goût pour le sport, vous lisiez déjà parfois des romans d'aventure aussi, hein, parfois des récits d'aventure. Et encore aujourd'hui, quand vous partez escalader, il y a souvent dans votre poche un recueil de poésie, un roman. Vous ne partez jamais sans un livre.
Ah non, jamais. Mais c'est vrai que même le voyage, je réalise que le voyage m'est venu par goût de la lecture, en fait. J'ai voyagé dans les livres avant de voyager concrètement. J'ai lisé, ma maman avait Alexandra David-Nel, donc on lisait ça. Mon papa nous lisait Jules Verne le soir. Donc on était bercés quand même par une littérature d'aventure, de quête de l'inconnu. Et j'ai lu beaucoup. Ouais. Nicolas Bouvier m'a énormément marqué. L'usage du monde ou Le poisson-scorpion sont des titres qui m'ont assez bouleversé en fait quand j'ai fait.
Mais vous prenez même des livres parfois complètement inattendus. Hein. Vous parlez d'un petit traité de sorcellerie. Vous promenez avec ça dans la poche. Ça vous amuse. Votre compagnon Arnaud Petit trouve ça moins rigolo. Se demande ce que vous faites avec ça. Vous lisez comme ça des recettes pour pouvoir conquérir le monde.
Non, alors c'est pas tout à fait exact parce que ce recueil-là, en fait, je l'avais trouvé au pied d'une paroi dans une espèce de petite caisse que des alpinistes avaient laissée. Il y avait une sorte de petite bibliothèque comme ça sauvage. Dissimulé sous un bloc.
Mais vous avez choisi celui-là.
Et j'ouvre la petite. Oui, mais c'était le seul qui était en français. Puis j'ai trouvé ça tellement drôle de rencontrer le petit Albert au fin fond du Yukon que c'était assez rigolo.
Alors plus généralement, ce sont des recueils de poésie, par exemple, que vous emportez avec vous quand vous pouvez vraiment les choisir et qu'ils ne vous tombent pas du ciel dans une vieille caisse éclatée. Est-ce que vous avez en tête quelques vers que vous pourriez comme ça nous citer, qui vous accompagnent lorsque vous êtes sur les parois?
Alors, il y a ce poème de Nicolas Bouvier, dont je ne me souviens plus du titre précisément, mais qui finit par ces vers. Il est au bord de la Caspienne, il a 23 ans, il fait son grand voyage, on est en 54, avec son ami, donc Thierry Vernet, ils sont au bord de la mer et puis ils font un petit pique-nique, donc ça se finit par ce midi-là. La vie était si égarante et bonne que je lui ai dit, ou plutôt murmuré, « Va-t'en me perdre où tu voudras. » Les vagues ont répondu, « Tu n'en reviendras pas. » Et pour moi, voilà, en plus, c'est des vers que je partage aussi avec mon petit frère Guillaume. Donc, on a beaucoup de goûts littéraires en commun. Et ces vers-là, ça nous a marqués.
On vous en propose un autre de poèmes qui vous accompagne parfois sur les parois du monde. « Ma bohème » d'Arthur Rimbaud.
Je m'en allais les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là! Que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course. Des rimes, mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais assises au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied contre mon cœur.
Ma bohème d'Arthur Rimbaud, lu par Éric Ruff. Merci Stéphanie Baudet, parce que vous nous donnez l'occasion d'écouter un peu de poésie sur France Inter. On le fait de temps en temps, peut-être pas assez souvent. Vraiment, vous avez un attachement à la poésie. Ça vous inspire quand vous grimpez ou c'est l'inverse, c'est l'escalade qui vous donne l'envie de lire de la poésie?
Je crois que j'ai envie de lire de la poésie avant même de grimper. Ouais. Parce que puis la poésie, même quand on aime lire et puis écrire, on se rend compte à quel point c'est un condensé des mots. On va à l'essentiel dans la poésie. Un vers peut résumer à merveille ce qu'un roman de 300 pages ou ce qu'un essai de 300 pages voudrait dire. Et parfois, alors, il faut une certaine disponibilité d'esprit pour être touché. Parfois, on lit des vers et puis rien ne se passe. Et d'autres fois, ou quelques années plus tard, on relit les mêmes vers et là... C'est l'illumination, donc c'est assez étrange aussi la poésie.
Ouais, ouais, mais il y a toujours des sens cachés, hein. Ouais. Il faut comprendre aussi ce qu'on a voulu dire. Alors vous n'êtes pas seulement une lectrice de poèmes, vous avez incontestablement une plume, hein. Je le disais, Sylvain Tesson le souligne dans la préface qu'il signe de votre livre à la verticale de soi. Il dit, il y a un point commun entre celui qui escalade et celui qui écrit, c'est le style. Et visiblement, vous n'en manquez pas de style dans les deux domaines, aussi bien dans l'escalade que lorsque vous écrivez. Ça vous inspire l'escalade pour écrire vos poèmes ?
Alors, c'est assez étrange parce que quand je grimpe, par exemple, j'emporte toujours un carnet, mais je ne le remplis jamais. J'arrive jamais vraiment à écrire ce que je vis sur l'instant parce que je suis tellement absorbée par le présent, par le paysage, les oiseaux, ce qui se passe autour de moi, que je me laisse juste traverser. Je suis comme poreuse, en fait, et j'arrive rien à retenir sur l'instant. Puis quand je rentre chez moi, après, j'ai besoin d'un temps pour laisser infuser tout ça et puis... passer au tamis de la mémoire ce qui mérite d'être conservé et ce que je vais écrire ensuite.
Mmh. On en lit un de ces poèmes que vous avez écrits. Le titre, j'ai demandé la lune au rocher. Vous nous faites l'amitié d'en lire quelques vers.
Bien, je vous en remercie. Alors, j'ai demandé la lune au rocher. J'ai pensé qu'en m'agrippant, je sauverai l'instant. J'ai pensé qu'en m'accrochant, j'arrêterai le temps. J'ai demandé la lune au rocher et j'y ai cru longtemps, m'entraînant, soulevant des poids, brisant des plumes. Je n'ai pas vu venir, passer, rides années, tout entière absorbées par le rocher. Je le caresserai toujours, car je croise au vieil amour qu'on rajeunit de l'aile chaque jour. Mais je cède, maintenant, aux caprices du vent. Va, mon cœur, mène-moi où tu voudras. J'ai demandé la lune au rocher, et il m'a tout donné.
C'est vrai qu'il vous a donné beaucoup le rocher, l'escalade, la montagne. Vous pensiez, quand vous avez commencé à grimper comme ça sur les parois du monde, que ça vous emmènerait aussi loin ?
Pas du tout, non, pas du tout. Mais c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup, à la fois mon réseau d'amitié, l'amour de ma vie, beaucoup de choses en fait. Oui, ça a façonné ma vie d'une certaine façon. Et,
ça fait partie de ce que vous êtes aujourd'hui.
Oui, voilà, je n'ai pas tardé à me pétrifier.
Vous statufiez en paroi verticale. Allez, vous semblez tout devoir à ce rocher et à ses parois. Alors on va y retourner dans un instant. On poursuit nos ascensions vertigineuses avec Stéphanie Baudet, Le temps d'un bivouac sur France Inter.
Il est arrivé que je prenne le train par jalousie. Il est arrivé que je me noie dans l'alcool et l'extasie. Il est arrivé tant de choses et j'ai eu plusieurs vies. Alors quelle différence ? Je suis celle que tu cherches, je suis celle que tu suis. Yes. je brise toutes les absences. Je suis l'extase indécise, l'aube claire de l'expérience. Je suis le sceptre de la joie, la souffrance et la fantaisie, et la jouissance est mon cri.
C'était Herbe Mauve de Barbara Carlotti dans le temps d'un bivouac. Et aujourd'hui, on bivouaque, alors pas sur terre ferme, mais suspendu, accroché aux parois les plus vertigineuses du monde.
Bon, mais quand on rentre dans le Portal Edge, après quelques petits tiraillements pour s'installer, il n'y a pas de souci pour s'endormir. Hein. Oh, putain, on est mieux allongé. Hein. Je vais te vacher quand même correctement.
Moi, je suis vaché.
Ouais, mais je préfère quand même fermer le mouchoir à vis. Je sais jamais, en cas de rupture du piton. On est quand même mieux sur les cuisses, vous baudriez, parce que sinon, là, tu finis par plus supporter. Voilà, et voilà, la lutte est enfin terminée. Allez, eh ben bonne nuit, Arnaud.
Stéphanie Baudet en train d'installer son bivouac. Vous étiez avec votre compagnon Arnaud Petit et nous étions sur une paroi, l'une des plus impressionnantes du monde, hein, le Salto Angel au Venezuela. C'est-à-dire que quand vous entreprenez de gravir ce type de paroi, ça se fait pas en une seule journée. Et c'est-à-dire que vous allez faire des étapes et plusieurs jours de suite, vous allez dormir à même la paroi. Comment ça se passe, Stéphanie Baudet ?
Oui, c'est vraiment ça. En fait, comme la paroi était déversante, fait surplombante, et il n'y avait pas de matériel en place, donc on équipait tout nous-mêmes. Donc c'est une escalade très complexe et il fallait qu'on soit autonome à la fois en nourriture, pour bivouaquer. Et donc on avait porté, on était 6, donc avec Evra Van Den Boom, que vous avez entendu tout à l'heure, et on a porté à peu près 10 sacs de 30 kilos, donc il fallait hisser dans la paroi. Et ensuite, quand on trouvait des petites plateformes de rochers, on s'installait. Alors parfois, il n'y en avait pas suffisamment large. Donc là, on rajoutait ce qu'on appelle un portal edge, qui veut dire en fait vire suspendue, et qui sert donc à augmenter la surface horizontale pour.
Une sorte de petit échafaudage, hein, on peut imaginer ça, un petit balcon suspendu, quoi, que vous accrochez à la paroi.
Ça ressemblerait plutôt à un lit de camp avec des sangles qui rassemblent les quatre points extérieurs et puis qui sont unis par un point central au-dessus, quoi.
D'accord. Donc, et on dort bien dans ces conditions, à je ne sais pas combien de mètres, peut-être une centaine parfois.
Même plus, hein. Voilà, oui, même plus. Parfois, ça dépend à quel endroit on se trouve dans la paroi. Ça peut être. Le premier bivouac, si je me souviens bien, était plutôt autour de 350 mètres à peu près par rapport au sol.
Oui, et alors on dort bien ?
On dort très très bien pour la simple raison qu'en fait que l'escalade est très fatigante.
Oui.
Et puis donc on s'habitue, il y a une petite phase d'adaptation. Alors moi, ce que j'aime davantage, c'est les bivouacs qu'on peut faire directement sur le rocher.
Ouais.
Parce que là, c'est léger, on n'a pas besoin de porter ses portes-à-l'aide. C'est assez, c'est ramené plutôt à ce qu'on peut vivre quand on fait un petit bivouac dans la nature, dans une grotte ou en partant camper, même en famille.
Ouais. Quand on est alpiniste, il y a cette notion d'ouvrir une voie. Qu'est-ce que c'est qu'ouvrir une voie et quelle joie ça procure ?
Alors, ouvrir une voie, c'est être en fait la première équipe à tenter de gravir une paroi. Alors, évidemment,
Il y a beaucoup de parois qui n'ont pas été tentées aujourd'hui.
Il y a beaucoup de montagnes, évidemment, qui ont été gravies depuis la naissance de l'alpinisme. Et donc, au départ, les alpinistes passaient par des voies qu'on appelle normales, en essayant de trouver les itinéraires les plus évidents pour gravir la montagne. Puis, au fil du temps, quand le matériel s'est amélioré, quand les capacités techniques et physiques se sont aussi développées, on a été capable de gravir des parois beaucoup plus techniques, donc plus verticales, plus, là où on peut, par exemple, mettre des coinceurs mécaniques dans des fissures pour se protéger, etc. Donc il y a une évolution de l'alpinisme vers l'escalade, et l'escalade libre notamment, où on utilise simplement ses mains et ses pieds, puis les prises du rocher pour progresser, le matériel ne servant qu'à s'assurer. Voilà. Et puis la chose ultime, c'est le solo, comme vous avez peut-être vu Alex Honnold dans les médias, qui a fait El Capitan, donc sans corde, ou ce que faisait Patrick Hellinger, mais ça reste une pratique très marginale.
Donc le solo, on n'est plus assuré, on n'a plus de corde, si jamais on tombe, c'est...
Voilà, non, c'est... le solo, c'est la pratique ultime. Voilà, ouais.
Vous ne faites pas ça.
Non, j'ai pas beaucoup de goût pour le solo, j'ai beaucoup de goût pour la vie, et donc pas pour le solo.
Oui, vous avez bien raison. Alors, vous partez découvrir le monde sur ses parois, on l'a dit, vous passez par de multiples pays, mais pas uniquement, ce ne sont pas uniquement des paysages que vous découvrez, ce sont aussi des populations et des personnes que vous rencontrez. Il y a un exemple très frappant dans votre livre. Vous aviez, je crois, une vingtaine d'années quand c'est arrivé. C'est une petite fille au Maroc à l'époque, elle avait 10 ans, que vous rencontrez et qui va vous marquer au point que vous êtes devenus très amis. Et encore aujourd'hui, vous passez votre temps, dès que vous pouvez, quand vous allez au Maroc, vous allez la voir. Elle s'appelle Sadia. Qui est-elle? Comment vous l'avez rencontrée?
Alors, ça a été un coup de foudre à la fois pour un lieu qui s'appelle Taria, qui se trouve dans le Haut Atlas, non loin du massif du Mgoun, pour ceux qui connaissent du Mgoun. Et donc, c'est à peu près à 300 km à l'est de Marrakech, dans les montagnes. Et on avait été fascinés par ce petit village perdu où on accédait en fait sans voiture. Il y a simplement un petit sentier qui chemine. On prend des mules, on met nos sacs dessus, puis on arrive dans ce petit écrin de c'est comme un petit patchwork en fait de champs minuscules qui sont arrosés par une espèce de source et puis des belles cascades. Et puis tout autour de ça jaillissent des parois magnifiques, des parois de 500 mètres, de rochers ocre. Et puis au-delà des parois, il y a eu cette rencontre avec les villageois qui sont des montagnards. Les berbères, ils sont beaucoup plus impressionnants que nous sur les chemins. Ouais. Et quand j'ai vu ces enfants, moi je me suis tout de suite pris de beaucoup d'affection pour les enfants du village qui m'ont appris un petit peu le berbère.
Oui,
j'ai passé tout le temps avec eux.
Vous dites, c'est amusant, vous dites, vous avez réalisé un peu plus tard que le berbère que vous avez appris, vous l'avez appris avec des enfants qui avaient la bouche un peu édentée. Donc pendant très longtemps, vous avez parlé un berbère qui n'est pas vraiment le berbère,
voilà, mais
avec
zozotait.
L'accent des enfants qui zozotent.
Tout à fait, oui.
Donc c'est vraiment à leur contact que vous avez appris leur langue. Et donc, Sadia, pourquoi avec elle particulièrement il y a eu ce rapprochement, plus qu'avec les autres?
Ben ça, c'est la magie des rencontres et qu'on ne peut pas vraiment expliquer. C'est du domaine de l'indicible. J'ai vu cette petite fille avec son espèce de fardeau énorme. Je crois que c'était du maïs qu'elle avait sur le dos, mais c'était vraiment quelque chose d'énormément lourd pour ses petites épaules. Et je l'ai voulu l'en délester. Puis elle a éclaté de rire en me signifiant qu'elle était beaucoup plus forte que moi, alors qu'elle mesurait 1m10. Quoi. Et donc, elle m'a pris par la main. Et puis après, c'est la magie de la rencontre. Je ne sais pas comment expliquer. C'est ses prunelles aussi. Je suis fascinée par les yeux des enfants dans ces pays, souvent en difficulté, des pays assez misérables. Mais il y a un regard, il y a une présence, il y a une joie en fait dans ces regards.
Et puis elle vous renvoie aussi à certaines questions parce qu'elle comprend pas bien finalement ce que vous venez chercher chez elle. Elle qui aspire à peut-être plus de confort, moins de précarité. Et vous qui avez tout en Occident, vous venez pour vivre ce qu'elle vit, elle. Et ça, c'est quelque chose. Même vous prenez le temps de l'écrire dans le livre, de le lui expliquer par cette voie-là, par votre livre.
Oui, mais c'est vraiment le paradoxe. En fait, on va grimpeur, alpiniste, on va dans des pays où même les marcheurs, les trekkers, dans des pays où les gens ont des vies très difficiles. Nous, on trouve ça beau, exotique. Il y a ce côté retour à la nature, mais qui n'est pas idyllique pour les gens qui vivent sur place. Et ce sont de véritables héros du quotidien, souvent. Les conditions sont très difficiles. Et eux aspirent à autre chose. Mais on ne sait pas où est la vérité. On ne sait pas où est la vie parfaite, en fait. Et puis, quand on a quelque chose du niveau du confort occidental, il va nous manquer justement ce retour à la nature. Et puis, quand soi-même, on vit une vie très difficile, on aspire au confort occidental. Donc, il n'y a pas de vérité.
Ouais. Cet endroit du Maroc, vous y retournez régulièrement, hein, vous l'avez dit, c'est vraiment un vrai coup de foudre pour ses habitants et pour la géographie du lieu. C'est aussi là, pourtant, que vous avez failli faire une chute fatale. Pourtant, vous prenez pas trop de risques, hein, on l'a compris, vous êtes attaché lorsque vous faites de l'escalade. Mais là, votre livre s'ouvre sur ce passage, ce bref moment où vous avez cru que tout allait s'arrêter.
Oui, bah, c'est une erreur. Souvent, on peut mourir de façon très bête. Et là, c'est ce qui arrive en montagne. Il faut être très, très vigilant. Et là, j'étais au sommet de la paroi. Je n'étais pas sur des choses difficiles, mais il n'y avait pas vraiment de sentier. Je cheminais sur une petite arête. J'avais un sac très lourd. Et en fait, j'ai trébuché. Et donc, j'ai cru effectivement y passer.
Là, vous dites ça avec un grand sourire, avec les yeux qui pétillent. Mais ça a l'air d'avoir été une expérience marquante.
Oui, ça a été marquant, mais je souris parce que juste après ça, en fait, on est allé. Donc, moi, j'arrivais pas à marcher. Et on a bivouaqué dans une grotte de bergers au sommet de cette montagne. Mmh. Et j'ai vécu une nuit très particulière, à la fois avec la peur peut-être de faire une hémorragie interne durant la nuit parce que j'avais des chocs, j'avais des bleus assez importants. Et en même temps, une espèce d'abandon, de lâcher prise absolue, où on se dit bon ben là, il n'y a rien à faire, le portable ne passe pas. C'est assez merveilleux d'ailleurs quand le portable ne passe pas. On est déconnecté, on se laisse aller, et puis on voit ce que la vie va nous apporter, quoi. Et puis c'était une soirée assez merveilleuse en fait.
Dans ce moment-là où vous ne pouvez pas appeler les secours parce que le portable ne passe pas et que vous vous demandez est-ce que vous avez une hémorragie interne, vous vous dites c'est assez merveilleux que le portable ne passe pas.
Non, c'est pas merveilleux, mais ça nous force. C'est encore une fois, c'est là, on est au contact avec la vie, ouais. Avec ce qu'elle a de plus simple. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'une bergère berbère, elle, aurait droit. Enfin, pourquoi est-ce que moi, j'aurais droit à des secours quand les bergers, eux, n'en ont pas? Ouais. Donc, c'est simplement retrouver finalement une sorte de fraternité dans cette vie, parce qu'on est finalement peut-être que 20% à vivre notre vie confortable avec nos smartphones, alors que 80% de la population mondiale ne bénéficie pas de ces conditions-là. Donc, c'est revenir à quelque chose de très proche de la vie, de très. Voilà, c'est toucher du doigt la fragilité, ouais. En fait, la vulnérabilité.
Vous faites un lien entre ce que vous vivez dans ces expériences le long des parois et puis le yoga, ce que vous apporte le yoga. Vous citiez tout à l'heure Alexandra David-Nel en disant j'ai lu très jeune ses écrits, ils m'ont marqué. Alors je voulais vous faire un petit cadeau, c'est la voix d'Alexandra David-Nel qui parle du yoga. Alors il faut vraiment tendre l'oreille, hein, nous sommes en 1969 et Alexandra David-Nel a 101 ans.
Le yoga, c'est la suppression des cogitations. La suppression des cogitations, c'est-à-dire un brassage d'idées que l'on fait dans son esprit. Nous entrons en rapport avec les choses par nos sens. Nous voyons, nous entendons, etc. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, cela dépend de ce avec quoi nous entrons en contact. Et cela dépend toujours les lieux où nous nous trouvons.
Vous qui vous décrivez comme une hypersensible, Stéphanie Baudet, le yoga, c'est la suppression des cogitations. C'est ça que vous cherchez à la fois dans le yoga, parce que vous êtes devenu professeur de yoga, et dans l'escalade, c'est cette façon de se déconnecter du monde, de se recentrer sur soi.
Voilà, je pense que c'est de se recentrer, effectivement, c'est un très, très beau mot. C'est l'arrêt, effectivement, de la fluctuation des mouvements de la pensée traditionnelle, mais pour arriver à cette unité à l'intérieur de soi, qui n'est pas une absence d'émotions ou de sentiments, mais qui est simplement une présence à juste ce qui est dans l'instant. Et donc, il ne faut pas se culpabiliser quand on a des pensées qui nous traversent et qu'elles sont erronées au moment où on aimerait méditer. Il faut juste les accueillir et puis les laisser passer. Et l'escalade, c'est vrai que rejoint aussi le yoga à ce niveau-là, c'est que quand on grimpe, on est immédiatement là, ancré dans l'instant présent.
L'escalade, c'est aussi la suppression des cogitations.
Oui, tout à fait. Ou alors quand on cogite trop, quand on se projette trop vers le sommet, ben on a toutes les chances de passer à côté de la cible. Oui.
Merci Stéphanie Baudet. Votre livre s'intitule « À la verticale de soi ». Il est paru aux éditions Guérin-Paulsen. Restez avec nous dans un instant. Je vous emmène en Iran déguster la cuisine locale avec Marine Mandrila et Louis Martin de retour dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
Crazy city's dim light, and the silhouettes that fall from grace, and they are laughing in love. Smoking ghosts find pleasure in your funny presence, sweetheart. They risk capture to be crushed, aroused in tune to cheap machines. Flashing time down the street.
will take you in. They wait for you in their shadow. New York City is everything. Sing the ghost dance healer.
Daniel Fievé, le temps d'un bivouac.
C'était Thurston Moore, Smoke of Dreams sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Djoubaka. Et à 17h53, il est l'heure de retrouver nos explorateurs des cuisines du monde.
Tiens, qu'est-ce que c'est que ça?
À la soupe! Soupe!
Bonjour Marine Mandrila et Louis Martin.
Bonjour.
Très heureux de vous retrouver. Vous avez voyagé toute l'année, vous êtes invité dans les cuisines des gens que vous rencontriez et vous êtes revenu avec plein de nouvelles découvertes culinaires et de nouvelles recettes. On commence avec l'Iran. Marine, qu'est-ce qui vous a marqué lors de votre périple en Iran?
Je pense que ce qui nous a le plus marqué, c'est la différence entre l'image qu'on pouvait avoir de l'Iran avant d'y aller et la réalité de ce qu'on a vraiment découvert sur place. Mm-hmm. C'est un pays qui peut effrayer, qui a une histoire récente assez mouvementée. Je pense qu'on a tous des images de la révolution islamique, des femmes voilées, l'embargo américain. Donc dans notre imaginaire collectif, en tout cas celui de Louis et moi, c'est un pays qui n'est pas facile à appréhender, l'Iran. Et on a découvert sur place une réalité extrêmement différente. On a été accueillis partout, à Téhéran, à Ispahan, à Yazd, à Shiraz, avec énormément de gentillesse et de douceur. On n'a eu aucun mal à rencontrer des Iraniens, à aller manger chez eux, qui étaient au final extrêmement fiers et heureux de nous faire découvrir leur patrimoine et la culture perse, qu'on connaît très peu en France. Et surtout, je crois qu'on a été marqué par la ville d'Ispahan, la grande mosquée d'Ispahan, qui est parmi les plus belles choses qu'on a pu voir de toute notre vie. Et sur la grande place de la mosquée, tout le monde vient pique-niquer en famille. Ça sent la fleur d'oranger, l'eau de rose partout. C'est extrêmement doux. Mmh. Et sur les étals des bazars, tout le monde nous invitait à goûter les produits, les fruits et légumes, etc. Donc c'est un pays qui mérite de s'y attarder, d'y passer du temps et surtout d'aller au-delà, je pense, des images qu'on peut avoir dans notre imaginaire collectif.
Louis, quelles sont les caractéristiques de cette cuisine qui commence déjà à nous mettre un peu l'eau à la bouche,
hein? Alors, la première caractéristique de la cuisine iranienne, c'est que c'est pour sûr une des plus grandes cuisines au monde. Ouais. Et que pour goûter la vraie cuisine iranienne, il faut aller directement chez l'habitant et pas au restaurant. Mais alors là, pas de panique, comme Marine l'a dit, lors d'un voyage en Iran, il y a de grandes chances pour que des Iraniens vous invitent à boire le thé ou à manger pour partager un repas. Et il faut avouer qu'on a rarement passé autant de temps en cuisine, même si c'est un peu notre marque de fabrique. Avec certainement un record à Shiraz, chez Myriam, on a commencé à préparer le dîner à 9h du matin. Et on a retrouvé chez Myriam, comme dans presque toutes les cuisines, une cuisine très colorée, très savoureuse, très équilibrée, avec des aubergines, des citrons confits, des pistaches, des amandes, du safran, beaucoup de fruits avec des recettes à base de grenades, de baies, de prunes, de raisins et du riz, comme à tous les repas, dont la cuisson en Iran, c'est vraiment un art culinaire. Puisqu'il est toujours agrémenté de multiples épices. On le fait dorer dans le fond de la casserole à la fin pour faire le tadik, une fine couche de riz croquant que tout le monde s'arrache. Et juste avant de le servir, on ajoute la touche finale, une pincée de safran diluée dans un peu d'eau chaude, une épice dont on raconte qu'elle rend heureux. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les Iraniens sont si accueillants.
Ouais. Ah, bon, vous avez l'air heureux, en tout cas, de retour d'un tel pays.
Et on vous a rapporté une petite recette d'Iran qui est extrêmement populaire, qu'on a découverte chez Ellie et Dani à Ispahan. Et leur maman, surtout, qui nous ont cuisiné leur recette préférée, ce sont des brochettes de viande qu'on appelle le kebab Hosseini.
C'est de la viande pour le kebab Hossein.
Elle est belle la viande, hein? Non?
Wow. Ça vient de l'Azerbaïdjan iranien.
Vous la faites venir de là-bas?
From the region.
Yes.
Wow. Et là, on fait notre petite courgette. Ok, je vois.
You can do it.
Yes.
My mother said that yes. You.
Ma mère dit que tu le fais mieux que moi.
Better me.
C'est quand même maman qui dirige l'opération.
Non, elle
pas en fait. I think
je crois que c'est elle la chef.
Yes.
C'est vrai, hein.
Marine Mandrila, apparemment très bonne élève, hein, vous faisiez ça mieux que la fille de la maison. Alors cette recette, évidemment, faut la partager avec nous.
Et je la partage tout de suite. Alors le kebab Hosseini, on prend de la viande de bœuf, un oignon, des poivrons verts, un petit peu de beurre, 6 cuillères à soupe de concentré de tomates, 2 cuillères à café de cannelle, 2 cuillères à café de gingembre, 2 cuillères à café de curcuma. On découpe la viande de bœuf en petits cubes, hein, on pèle les oignons, pareil, on les coupe en petits quartiers. Pareil pour les poivrons, on les lave, on les coupe en petits quartiers. On en fait des brochettes où on alterne viande, poivron et oignon. On les met dans la marmite et à côté, on mélange le concentré de tomate avec la cannelle, le gingembre, le curcuma. On dilue avec un peu d'eau. On ajoute à la préparation à la marmite. On recouvre quasiment les brochettes d'eau bouillante. On couvre avec un couvercle. On laisse cuire une heure et on se régale avec du riz au safran.
Merci Marine Mandrila et Louis Martin. On va mettre évidemment la recette sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Et puis on retrouve ce soir vos aventures culinaires en Iran dans l'épisode Very Food Trip en Iran. C'est à 19h10 sur Planète Plus, et puis une sélection des meilleurs extraits sur la page Facebook de Very Food Trip et des comptoirs des voyages. Merci, à la semaine prochaine.
Merci.
Merci pour ce merveilleux spectacle.
La routine.
Demain à 16h, nous partirons avec un chercheur qui est allé à la rencontre des populations qui seront les premières à être touchées par le changement climatique et la montée des eaux. Et puis à 17h, nous reviendrons sur les souvenirs d'un grand voyageur qui arpente le monde depuis 30 ans, Pierre Josse. À demain donc pour de nouvelles aventures. Après le flash, vous avez rendez-vous avec Julia Molcou pour le Mac de l'été. Bonjour Julia.
Bonsoir Daniel.
Qui vous recevez alors tout à l'heure?
Eh bien ce soir pour ma première, ça ne plaisante pas puisque je reçois Julien Clerc. Julien Clerc qui sera sur la scène du FNAC Live, dont France Inter est partenaire. Ce sera jeudi soir à Paris et c'est gratuit.
Ah bah super, on vous suit, on vous écoute pour votre première.
Merci.
À tout de suite, Julia.